Vous êtes sur RTL.
.fr.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h32, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Jean Castex, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Monsieur le Premier Ministre, vous allez donc répondre pendant près d'une trentaine de minutes aux questions d'Alba Ventura et de François Langlais.
Bonjour Monsieur le Premier Ministre.
Bonjour,
Jean Castex. Merci d'avoir choisi RTL pour votre rentrée. L'actualité n'a pas ralenti à la faveur de l'été, bien au contraire. Alors il y a les bonnes nouvelles sur le front économique et nous allons en parler dans un instant avec François Langlais. Et puis de moins bonnes nouvelles, je pense à ces violences incontrôlables comme on l'a vu à Marseille, il y a le dossier afghan et puis il y a la situation sanitaire. Très dégradée en Outre-mer, inquiétante en métropole, surtout à une semaine de la rentrée des classes. Alors justement, Monsieur le Premier ministre, selon les dernières modélisations de l'Institut Pasteur, la moitié des nouvelles infections auront lieu chez les enfants. Arnaud Fontanet, l'épidémiologiste, dit « L'école est la situation la plus complexe qui nous attend ». Donc, malgré toutes ces alertes, vous avez décidé de faire une rentrée normale. Est-ce que vous n'avez pas pris un risque élevé ?
Je ne le crois pas. Et je ne suis jamais dans l'esprit de prendre des risques, et encore moins pour les enfants. La politique qui est la nôtre depuis le début de la gestion de cette crise sanitaire, c'est la priorité à la protection de nos concitoyens. Et s'agissant des enfants et donc des écoles dont vous parlez, nous avons jusqu'à ce jour toujours réussi à maintenir le plus possible les écoles ouvertes. Ça ne veut pas dire dans n'importe quelle condition, sans s'entourer de garanties. Et c'est ce que nous allons faire. Jusqu'à présent, cette politique a été couronnée de succès. La France, vous le savez, est l'un des pays du monde qui a le plus maintenu ses écoles ouvertes.
Pardon, il y a un détail, c'est le variant Delta cette année.
Oui, oui, vous avez raison. Il y a le variant Delta, mais que nous disent d'abord les scientifiques ? On fait une politique sanitaire. Que dit la Société française de pédiatrie, qui a été, dans la crise sanitaire, pour nous, une boussole extrêmement constante ? Il y a le conseil scientifique, vous citez le professeur Fontanet, puis il y a tous les spécialistes. La Société française de pédiatrie nous dit qu'il n'y a pas de raison, y compris compte tenu du variant Delta, de considérer qu'il faudrait fermer les écoles. D'autant que, s'agissant des enfants plus âgés, la tranche 12-17 ans, nous avons, en cette rentrée scolaire, par rapport aux précédentes, une arme nouvelle qui est la vaccination. Et parmi, vous parliez de bonnes nouvelles, Mme Ventura, de l'été, il y a le fait que nous avons ouvert, au début de l'été, la vaccination aux 12-17 ans. Près de 60% d'entre eux ont déjà reçu une première dose de vaccination. Donc, quels sont nos objectifs pour la rentrée ? Pardon de détailler. Donc, on est prêt avec 4 niveaux dans un protocole à mettre en place selon la situation épidémiologique. Donc, à ce jour, ça s'appelle le niveau 2. Le niveau 2, c'est quoi ? Les classes sont ouvertes en présentiel. Au niveau élémentaire, il n'y a pas de vaccination. On continue, ce qui a produit de bons effets jusqu'à la sortie de juin, à tester.
Donc, pas de vaccination pour les moins de 12 ans.
Alors ça, il faut l'expliquer peut-être à nos conseillers. Ah. C'est pas le chef du gouvernement, ni français ni ailleurs, qui dit « on va vacciner telle ou telle catégorie de population ». Ce sont les autorités scientifiques qui évaluent le bilan co-avantage d'une vaccination. Il y a des études en cours au niveau mondial. Et à ce stade, elles ne sont pas achevées. Et donc, la communauté scientifique ne recommande pas de vacciner les enfants de moins de 12 ans. Donc on va continuer à les surveiller par des tests salivaires. On a un nouvel outil qui s'appelle l'autotest que nous allons déployer. On a fixé, c'est un niveau d'entrée, 600 000 tests hebdomadaires dans les écoles élémentaires. Le port du masque, j'en profite pour le dire, il sera maintenu dans les classes et dans les cours de récréation. Nous voulons généraliser ce qu'on appelle les capteurs de CO2. Et pour les plus grands, eh bien, le mois de septembre, la priorité sera de vacciner ceux qui ne l'ont pas été cet été et qui, je l'indiquais, ont été quand même particulièrement nombreux et c'est heureux.
Ça, c'est pour l'école. J'ai une question, Monsieur le Premier ministre, parce qu'on a vu le cas d'une maman enceinte non vaccinée qui avait transmis le virus à son bébé qui n'a pas survécu. Ça nous a tous beaucoup bouleversés. Les femmes enceintes doivent se protéger particulièrement.
Merci, si je peux dire, de me poser la question. Oui. Bien sûr,
oui, oui.
Elles doivent se faire vacciner. Le vaccin, je vais le dire différemment, contrairement à ce que certains ont pu laisser croire, enfin, en général les anti-vax, le vaccin est recommandé pour les femmes enceintes, ou en tout cas n'est pas décommandé pour les femmes enceintes. Il peut y avoir des cas extrêmement particuliers ou sur prescription médicale. Ça n'est pas le cas. Mais oui, bien sûr.
Vous vous appelez ce matin les femmes enceintes à se faire vacciner.
J'appelle tout le monde à se faire vacciner.
Tout le monde,
et en particulier, vous savez, je suis allé cet été visiter beaucoup d'établissements hospitaliers et j'ai vu une situation extrêmement compliquée. Je crois que c'était à l'hôpital de Carcassonne où il y avait une situation de l'accouchement d'une femme enceinte avec un bébé atteint. Oui, bien sûr, et il y avait là-dessus un consensus des soignants. Il faut que les femmes enceintes se protègent en se faisant vacciner. Elles se protègent elles-mêmes et elles protègent leur enfant.
Puisque vous parlez de l'hôpital, certains soignants ont été sanctionnés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés alors qu'elle est obligatoire. Vous allez accélérer les contrôles ?
Alors, on est d'accord, les sanctions, enfin le début, l'échéance, c'est le 15 septembre hein, pour les soignants.
Certains ont été mis en vacances d'office.
Alors, d'abord, première chose, nous avons décidé, le législateur a décidé de la vaccination obligatoire pour les soignants. Et c'est une bonne chose. Je vous le dis ici, je me souviens de ma visite, là, c'était dans les Landes, où on avait des résidents, des EHPAD, qui, comme vous le savez, sont sans doute les populations les plus fragiles, quel que soit le variant à cette épidémie, au sein de laquelle on a compté le plus de morts, qui avaient été recontaminés par des personnes dont la mission même, Aventura, c'est de les soigner, de les sauver. Personne ne peut comprendre ça. Quand on fait ce métier, d'abord, me semble-t-il, on doit croire en la science, on doit croire en la médecine. Et ensuite, on est là pour protéger ses concitoyens. Donc, oui à la vaccination obligatoire. Madame Bantua, juste, ça marche quand même. L'échéance de l'entrée en vigueur de l'obligation le 15 septembre, disais-je, n'est pas encore arrivée. On a dépassé les 83% de patients vaccinés. Vous voyez, comme quoi, les annonces et cette tactique, pardonnez-moi, qu'on a eue de dire on fixe une obligation et sans entrer en vigueur quelques semaines plus tard, pour laisser aux gens le temps de se préparer, de s'accoutumer, a eu des effets
donc
très positifs.
Pour les soignants.
Mais je le dis, trentaine, nous ne reculerons pas. Voilà, je le dis, nous ne reculerons pas. Je me dis, oui, encore...
veut dire quoi, nous ne reculerons pas?
Eh bien, qu'à partir du 15, les sanctions prévues par le législateur seront mises en œuvre.
Vous avez promis 50 millions de personnes complètement vaccinées fin août. Ça, c'est un objectif qui sera atteint ou...
Alors, aujourd'hui, on est à 47 978 millions. Bon, c'est vrai que la vaccination au mois d'août, elle était partie en flèche au mois de juillet après l'intervention, vous en souvenez toutes et tous, du président de la République le 12 juillet. La progression s'est un peu ralentie. Là, on va remettre le paquet. On a des prises de rendez-vous à nouveau qui sont très dynamiques. Je pense qu'on sera autour des 50 millions. On va tout faire pour atteindre cet objectif. Peut-être ce sera deux ou trois jours après. Bon, mais l'essentiel, la dynamique est là. La bonne nouvelle de l'été, je le dis quand même, pendant cet été-là, où il y a eu des mouvements, des choses, il y a quand même 12 millions de nos concitoyens qui se sont fait vacciner. Ouais. 12 millions.
La Haute Autorité de Santé a validé le rappel pour le vaccin. C'est ce qu'on dit communément la troisième dose. À partir de quand on doit faire, quand on a plus de 65 ans, cette troisième dose ? À partir de quand ?
Bon, alors, là aussi, on rappelle à votre antenne, à toutes vos auditrices, vos auditeurs, la vaccination, ça nous sauve, d'accord ? On a 8 fois moins de chances d'être contaminé, 11 fois moins de chances d'aller à l'hôpital si on est vacciné. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on parle de troisième dose ? On préfère parler de rappel, parce que vous savez que, pour une catégorie de nos concitoyens, une dose suffit puisqu'ils ont eu la maladie. Il y a déjà 100 000 de nos concitoyens, par ailleurs, qui ont eu trois doses. Bon. Donc, ce rappel, pourquoi faut-il le faire ? La situation israélienne, je réponds, parce que ça veut dire... Mais voyez, regardez,
mais
en Israël, il se recontamine alors qu'il y a eu, parfois, deux doses. Mais parce que la protection vaccinale, chez certaines personnes, les plus fragiles, les plus âgées, baisse. Donc, il faut une troisième. Nous venons d'avoir... Je réponds à votre question, rassurez-vous. L'avis de la Haute Autorité de Santé qui nous dit oui, c'est nécessaire, par étapes, pour les plus de 65 ans et pour tous les publics les plus vulnérables. C'est tout à fait cohérent avec, j'allais dire, le bon sens. Donc nous allons commencer. Priorité, ben, vous voyez, je vous renvoie un peu à ce qui s'est passé en janvier. Les plus vulnérables, je viens de les évoquer, ce sont les résidents des EHPAD. Donc à partir du 12-13 septembre, redémarrage de la campagne systématique après recueil du consentement des, pour les troisième dose dans les EHPAD. Et pour tous les plus de 65 ans ou présentant des comorbidités, ils pourront, dès le début du mois de septembre, reprendre rendez-vous, pour avoir leur troisième dose. Simplement, la HAS rappelle, je le dis à vos, aux personnes concernées, qu'il faut qu'il y ait un délai d'environ 6 mois entre la deuxième et la troisième dose. 6 mois.
Monsieur Castex, le pass sanitaire en entreprise, est-ce que vous y pensez? Certains patrons français le demandent et on voit qu'à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, au Royaume-Uni, en Australie, c'est devenu assez commun.
Alors, d'abord, tirons les enseignements du pass sanitaire là où on l'a introduit. D'accord? Avant de savoir si on le déploie. N'oubliez pas quand même que la priorité des priorités du gouvernement, c'est que le plus de monde possible soit vacciné. Bon. Et donc, je salue...
C'est un instrument. Hein.
Oui, c'est un instrument, mais je salue un autre instrument par lesquels, dans le monde de l'entreprise, des vaccinations sont organisées. Et d'ailleurs, je remercie une nouvelle fois les partenaires sociaux, leur sens et responsabilité, qui avaient pris des initiatives sur ce registre. Bon. Donc, pour répondre à votre question, au moment où je m'exprime, le pass sanitaire dans l'entreprise n'est pas d'actualité. Bon, ce qui est d'actualité, c'est
ça
de veiller...
Ça pourrait changer, si on vous entend.
Bah, vous savez, attendez, la gestion d'une crise sanitaire, c'est de la détermination et de l'humilité, c'est anglais, et de l'humilité. C'est-à-dire que je suis chef du gouvernement depuis plus d'un an, avant j'étais chargé du déconfinement, donc je crois avoir appris de cette crise, et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut que nous nous adaptions en l'expliquant aux situations. Bon. Donc le pass sanitaire, je reviens à votre question, est un bon outil. On nous avait dit, ouais, ça va être terrible. Bon, ça se passe de manière... évidemment, il y a des difficultés, ça ou là, mais ça se passe de manière relativement convenable. Mais vous l'avez très bien dit, c'est un outil parmi d'autres. La finalité, c'est la vaccination.
Comme on parle de l'entreprise, on va enchaîner sur le chapitre économique, si vous voulez bien, avec toujours François Langlais.
De bons indicateurs, hein. La croissance économique devrait atteindre 6% cette année, le chômage baisse, on en a encore eu la preuve statistique hier. Et hier, Bruno Le Maire, votre ministre de l'économie, a acté la fin du quoi qu'il en compte, du quoi qu'il en coûte, pardon, et pas quoi qu'il en compte, parce que c'est bien différent. Mais avec la reprise, une nouvelle question se pose, celle de l'augmentation des salaires. Faut-il augmenter les salaires, en particulier dans les secteurs où la pénurie de ressources se fait sentir? Elisabeth Borne, qui est ministre du Travail, hier, au micro de BFM Business, a dit « c'est une partie de la réponse pour les secteurs où il manque de main-d'œuvre ».
Oui, alors, pardonnez-moi de le dire, vous m'aviez invité il y a un an, on présentait le plan de relance. Les résultats que nous avons sur le front de l'économie et de l'emploi, dont je vous avais expliqué qu'il consistait la priorité des priorités de l'action gouvernementale, derrière, bien entendu, la lutte contre la crise sanitaire, les dispositions que nous avons prises à ce titre ont produit leurs effets. Les chiffres que vous donnez, pardonnez-moi de le dire, et vous le savez bien du reste, ne doivent rien au hasard. On est à 6% de croissance quand l'Union européenne est à 4,8 et l'Allemagne à 3,8. On est quasiment une locomotive.
L'Allemagne avait beaucoup moins chuté que nous, ça explique aussi que la performance d'aujourd'hui soit moins
bonne. Oui, mais sur le front du chômage, par exemple, on ne devait pas, on est là revenu au niveau d'avant-crise sanitaire, vous le savez, alors que tous les experts nous prédisait ce chiffre dans un an.
C'est vrai.
C'est une heureuse nouvelle. On est tous, évidemment, à l'origine de cette situation, les Françaises et les Français par effort. Mais comme je dois le dire, la politique du gouvernement, vous parlez du quoi qu'il en coûte, j'y viens. Ben, oui, c'était, monsieur Langlais, vous qui êtes un spécialiste d'économie, je pense, une décision économique. En sauvegardant l'économie française, comme nous l'avons fait, en mettant le paquet, comme l'a décidé le président de la République, on a évité qu'elle s'effondre.
Alors, les salaires.
On a évité qu'elle s'effondre. Alors, maintenant, quelle est la situation? On a une situation sur le terrain de l'emploi qui s'améliore de façon significative. Mais on a encore des tensions dans certains secteurs. Bon. Ce n'est pas le gouvernement, M. Anglais, qui décide de la hausse des salaires. Ça, vous le savez.
Bon. Non, il peut quand même le recommander. C'est ce qu'a dit votre ministre hier.
Oui, nous recommandons toujours. Vous savez, moi, je l'avais dit encore une fois à votre antenne, je suis toujours un grand partisan du dialogue social. Il y a des branches professionnelles. Donc, en l'occurrence, celles de la restauration, des cafés, etc.
Mais il pourrait y avoir des dispositifs fiscaux, par exemple, pour...
Il y en a déjà.
Mais d'autres,
Il y en a déjà.
Pour inciter, pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés.
Il y en a déjà. Vous savez que pour ce qu'on appelle les travailleurs de la deuxième ligne, on a réactivé la prime Macron. Évidemment, le patronat, à ce moment-là, nous a dit, et je le comprends parfaitement, mais ça dépend de la conjoncture économique. Bon, ben justement, ça tombe bien, celle-ci s'améliore. Bon, donc voilà. Donc il faut effectivement, le pouvoir d'achat c'est bien connu, et les salaires sont une question, une préoccupation tout à fait légitime de conseiller. Je voudrais juste rappeler, là aussi grâce aux mesures, quoi, parce que le pouvoir d'achat ne s'est pas effondré en 2020, il a même progressé en France, plus 0,4%. Il n'y a pas beaucoup de pays d'Europe, que nos concitoyens le sachent.
Vous savez. Là, il y a les prix du carburant qui augmentent, et puis l'alimentation,
des matières premières. Et on attend entre 1,5 et 1,8 de progression en 2021.
Heureusement, remarquez, avec tout ce qu'on a dépensé. Hein,
certes.
Il fallait que ça se voie.
Mais certes, mais du coup, attendez, on ne peut pas dire ce que vous dites et après le regretter en disant « Ah, mon Dieu, les finances publiques, etc. » Là, il faut être cohérent. Et moi, ma cohérence, excusez-moi, c'est de soutenir l'activité pour créer des emplois et favoriser le pouvoir d'achat.
On n'a toujours pas compris ce que vous voulez faire sur les retraites. Vous allez bien sûr évoquer le sujet avec les partenaires sociaux la semaine prochaine, mais quel est votre objectif ? Est-ce que c'est celui d'enclencher cette réforme avant mai 2022 ? Pour résumer, d'ici le printemps prochain, est-ce que c'est la réforme des retraites ou la retraite de la réforme ?
Belle formule, monsieur Calvi, mais bon, alors, le président de la République a été, lors de son intervention du 12 juillet, qu'évidemment nous avions préparé ensemble,
on l'imagine.
Très clair, il a dit, mais je l'avais déjà dit, donc pardon de me répéter, la réforme, presque envie de dire la sauvegarde des retraites, est indispensable. Est absolument indispensable.
Ça, on a bien compris. Après, bon. C'est l'horizon temporel.
Alors, oui, mais le choix du moment, évidemment, est très important, parce que si vous choisissez un mauvais moment, vous n'atteignez pas votre objectif. Bon. Et qu'a dit le président de la République sur le moment, puisque c'est votre question ? Il a dit il faut que la crise sanitaire soit sous contrôle et que les conditions de la reprise économique soient consolidées, soient
assurées. On n'est pas loin de cet
état. Alors, sur le deuxième point, on n'en est pas loin, encore que... Il faut mettre le paquet. On prépare, je le rappelle, un plan d'investissement à l'échéance de 2030, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Et sur le front sanitaire, la situation, pardonnez-moi de le dire, n'est pas encore tout à fait stabilisée. On n'a pas parlé du tout, en Ventura, de l'outre-mer, qui est extrêmement préoccupant et qui va quand même, encore une fois, la semaine prochaine, me conduire à présenter devant le Conseil des ministres une loi prorogeant ou autorisant la prolongation de l'état d'urgence dans ces territoires ultramarins. Donc, voilà, la situation sanitaire présente des éléments de stabilisation, y compris outre-mer, mais surtout en métropole. Mais enfin, on est encore quand même, je vous le rappelle, dans une moyenne de 20 000 cas par jour. Et sur le pass sanitaire qu'évoquait M. Langlet tout à l'heure, l'un des objectifs aussi, ça veut dire que dans certaines régions, où compte tenu des taux d'incidence, des taux d'hospitalisation, on aurait pu prendre des mesures de fermeture grâce au pass sanitaire, qui a eu un impact, certes, mais on a pu poursuivre l'activité. Ça, c'est très important.
Monsieur le Premier ministre, je vous emmène à présent entre un dossier à cheval sur l'international et la France et le dossier afghan. D'abord, qu'allez-vous faire des 5 Afghans proches des talibans qui ont profité du chaos pour monter à bord d'un avion français qui sont ici ? L'un d'eux a été placé en garde à vue puis condamné à 10 mois. Est-ce qu'on peut les expulser, ces personnes proches des talibans ?
Alors, attendez, on expulse des personnes lorsqu'elles ont commis des actes répréhensibles. Bon, alors nous avons monté un dispositif extrêmement précis, extrêmement sérieux, que nous suivons de façon permanente. Donc, il y a des personnes qui partent de Kaboul. Vous savez, vous me parlez de 5 personnes qu'on surveille comme toutes les autres, de façon scrupuleuse. Mais on est dans une catastrophe humanitaire. Je le rappelle quand même, parce que je ne veux pas quand même que ces 5 personnes qui, encore une fois, sont parfaitement sous contrôle, je veux bien rassurer
tout
le monde,
mais c'est pas comme s'il n'y avait pas une menace terroriste par ailleurs qui plane sans arrêt sur nous.
Bien sûr, madame, voilà, mais croyez bien que cette menace terroriste, j'y suis particulièrement attentif et tout à fait concerné. Donc, je parle en connaissance de cause. Bien sûr que nous surveillons. Mais nous devons faire face en Afghanistan à une catastrophe humanitaire. Bon. Donc, nous avons mis en place un dispositif où nous surveillons toutes les personnes. Nous savons qui nous prenons. Nous les faisons entrer. Nous veillons à la fois à leur insertion et au fait et à leur comportement, comme vous dites. Bon, il y a eu un cas d'ailleurs, la meilleure preuve, hein, c'est que l'un d'entre eux, vous l'avez dit, est sorti de son hôtel, il a été immédiatement récupéré. Voilà.
Si, donc pour si l'instant, elle reste en France, pas, ces
madame, personnes. Si nous ne surveillons pas, madame, ben vous ne sauriez pas, vous ne me poseriez pas cette
question.
Non,
mais les services de renseignement font très bien leur travail, voilà. Effectivement. Mais expulser en urgence absolue, comme le dit Xavier Bertrand, c'est pas possible de le faire, ça prend du temps.
Expulser en urgence absolue. Madame, cette personne, encore une fois, hein, fait l'objet d'une procédure judiciaire. Nous verrons bien ce que dit cette procédure judiciaire. Expulser vers l'État afghan, faut-il encore qu'il y ait un État, un gouvernement, une structure? Donc, attendez, soyons sérieux, on gère ce problème, n'essayons pas d'affoler les gens, on voit très bien les objectifs ou les arrière-pensées, nous donnons les moyens de contrôler la situation.
Combien allons-nous accueillir de réfugiés afghans en France?
Alors, il y a la gestion de l'urgence. D'accord? Bien donné. Donc, là, nous avons rapatrié qui? Les Français, les Afghans qui ont apporté un titre ou un autre, leur concours à l'armée, etc., et des familles, des artistes, des journalistes.
Donc combien?
Là, autour de 2500.
Et on va aller jusqu'à?
On va aller jusqu'à... Moi, je peux pas... En nombre, peut-être un peu plus, on va aller jusqu'à demain soir. Puisqu'à partir de demain soir, on ne peut plus procéder aux évacuations à partir de l'aéroport de Kaboul. Puis il y aura un deuxième temps. Il y aura un deuxième temps qu'on va gérer entre Européens et avec la communauté internationale, notamment le HCR, qui seront les réfugiés qui partiront d'Afghanistan dans l'avenir.
Question rapide, réponse rapide. Habituellement, vous organisez à chaque rentrée un débat sur l'immigration à l'Assemblée. Est-ce que c'est prévu cette année, justement ?
Pas à ce stade.
Plutôt pas.
Pas à ce stade, mais s'il est nécessaire. Vous savez, j'ai fait beaucoup de débats sur le fondement de l'article 51 de la Constitution, et j'y suis tout à fait disposé si la nécessité ça faisait sentir. Mais il faut qu'il y ait une raison pour le faire.
Ah ben, y a une raison. Merci.
Il y a une raison, madame, pardon. Il y a une raison, il y a une politique qui est conduite, un débat à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait des conditions particulières. Si elles sont réunies, je ne me refuse à aucun débat, notamment avec la représentation nationale.
Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre.
Merci à vous.
Merci, monsieur le Premier ministre. Un dernier point que je voudrais éclaircir définitivement après la réponse que vous avez faite à mon camarade François Langlais. La réforme des retraites est toujours nécessaire, mais elle n'est pas d'actualité pour cause de pandémie et de reprise économique non stable, même avec 6% de croissance.
Elle n'est pas...
J'aimerais une réponse tout à fait claire sur ce point.
En tout cas, au moment où je vous parle, oui. La priorité reste la lutte contre la pandémie et la reprise économique.
Merci infiniment, Jean Castex.